Merci Christelle. Eh bien, je donne la parole maintenant à Valérie Mansart pour intégrer l'accessibilité numérique dans le processus éditorial de la production à la diffusion.
Oui. Excusez-moi, un petit souci avec le lecteur d'écran.
C'est le Crip Time dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Excusez-moi.
Tu veux que... T'as besoin d'un coup de main ? Ça va aller ?
Je crois que c'est bon. C'est bon, je vous prie de m'excuser. Alors, on a amené cette édition. On a décidé donc de prendre en compte la. Merci. On a décidé de s'attaquer au chantier de l'accessibilité numérique en 2017 en répondant à trois injonctions légales qui sont liées à nos formats de production et de diffusion, à savoir le format HTML pour nos ouvrages et nos revues en SHS qui sont diffusées sur les plateformes d'Open Edition, Cairn, Percé pour le rétrospectif, et JSTOR. On doit donc aussi, et le format EPUB, pardon, pour les contenus diffusés sur les plateformes Open Edition. Donc les trois injonctions légales concernant ces formats et ces plateformes numériques de diffusion sont la loi de 2005 et l'article 47, la loi handicap de 2005 et l'article 47 qui concerne l'accessibilité des sites web. On doit donc pouvoir publier sur des plateformes numériques conformes au référentiel technique français, le Règlement général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A. Donc on doit, quel que soit son type de handicap et les outils d'assistance technologique qu'on utilise, pouvoir interagir avec la plateforme, donc accéder au contenu publié. On doit également répondre à la directive européenne d'accessibilité de 2019 qui concerne spécifiquement l'accessibilité du livre numérique et qui reprend également les exigences d'une directive européenne concernant les sites web de 2018. Et là, il faut se préoccuper de l'accessibilité de nos formats EPUB qui sont générés par Open Edition à partir du XHTML de la plateforme. Et on doit répondre à l'exception handicap ou droit d'auteur concernant la chaîne de l'édition adaptée. Donc, à savoir, depuis les dernières modifications de l'exception handicap au droit d'auteur, fournir à Platon un fichier XML quand on en dispose. Sinon, on donne un fichier InDesign ou PDF. Donc, cette prise en compte de l'accessibilité numérique dans la chaîne de production et de diffusion passe par l'organisation de la mise en œuvre dans les processus de la maison d'édition, de la production à la diffusion. Nous utilisons la chaîne éditoriale Single Source Publishing structurée XML TEI METOP. Donc nous avons un format d'entrée Word stylé qui ensuite subit différentes transformations selon les canaux de diffusion. On va transformer le XML TEI pivot pour la version imprimée, le PDF généré à partir d'InDesign. On va transformer le XMLTUI pivot pour la version mise en ligne sur les plateformes d'Open Edition, qui elles-mêmes seront transformées à la volée pour générer l'EPUB 2 actuellement. Et on a dû déterminer les critères d'accessibilité de cet outil éditorial. Quant à la diffusion, on ne diffuse pas nous-mêmes sur un site de vente ou de diffusion. On est diffusé sur les plateformes d'Open Edition, G-Store et Kern. Donc, la mise en œuvre de la prise en compte de l'accessibilité numérique passe par 4 axes de développement. Le premier, c'est l'acculturation à l'accessibilité numérique des équipes éditoriales et des autres partenaires de notre processus, c'est-à-dire les équipes des plateformes numériques de diffusion, les auteurs et éventuellement nos prestataires quand on externalise la relecture-correction. Donc ça passe par des actions de sensibilisation. On a travaillé en interne en constituant un groupe de travail pour expliciter ce qui était attendu par l'injonction légale. Et on a également présenté les différents typologie de handicap, enfin quel était, à qui s'adressait l'accessibilité de nos publications, comment est défini le public empêché de lire, quels outils, comment il prend connaissance d'un livre numérique, comment est-ce qu'il peut aussi interagir avec lui en l'annotant par exemple. Et échanger ses commentaires dans le cadre d'un travail de recherche avec d'autres enseignants-chercheurs. Ça concernait également l'explicitation de l'accessibilité des outils de diffusion sur le pôle diffusion. Comment rendre accessible une lettre de diffusion ? Comment rendre accessibles les réseaux sociaux sur lesquels on communique beaucoup et comment, quand on est en situation de handicap, comment, quand on est aveugle ou malvoyant, on va pouvoir accéder et avec quel outil à cette information. Suite à ce travail de sensibilisation et d'acculturation, dont l'objectif est d'inscrire dans les processus internes de la maison d'édition la prise en compte de l'accessibilité numérique, on a commencé à modifier nos outils de travail internes, nos procédures internes concernant la prise en compte de l'accessibilité numérique dans la grille d'expertise technique. On a inclus, après l'évaluation scientifique des ouvrages, l'éditeur mène une expertise technique pour vérifier la conformité du manuscrit aux recommandations de la maison d'édition. Et pour ce faire, on a une grille qui permet de checker les principaux points. Et dans cette grille, on a ajouté la prise en compte de la rédaction des textes alternatifs aux illustrations. C'est un travail expérimental, ce n'est pas une obligation. C'est pourquoi nous n'avons pas joint notre guide rédactionnel des textes alternatifs aux instructions aux auteurs qui sont publiées sur notre site. C'est au moment de l'expertise technique, quand on a repéré un manuscrit avec une dizaine d'illustrations, c'est le choix qu'on a fait. On a pas voulu mener cette expérimentation sur un ouvrage qui présentait plus de 10 illustrations. On envoie à l'auteur le guide rédactionnel des textes alternatifs. C'est celui qui a été diffusé au sein du GT Accessibilité du réseau Médicis, de façon à ce que les collègues qui y participent puissent se l'approprier et faire des retours d'expérience s'ils le souhaitent. L'objectif, c'est de le diffuser à toute la communauté. C'est aussi côté diffusion, l'intégration lors de la publication de la lettre de diffusion. Et là, vous avez un atelier demain sur le sujet où ce sera évoqué, savoir comment renseigner les textes alternatifs des images publiées. Là, on est dépendant de l'outil utilisé pour publier cette lettre de diffusion. C'est également réfléchir à l'ordre de lecture, comment présenter l'information de façon à ce que ce soit cohérent quand cette information est restituée par un lecteur d'écran, par exemple. Comme le disait Rachid Berbache tout à l'heure, le lecteur d'écran va avoir un fonctionnement linéaire. Donc, on présente le titre d'une image avant le fichier image qui contiendra le texte alternatif. C'est... Côté diffusion également, en 2021, on a fait un audit rapide de notre site. Concernant l'accessibilité des sites web, il existe trois types d'audits. Un audit express sur trois ou cinq pages qui ne permet pas de publier une déclaration d'accessibilité avec un taux de conformité au RG2A, mais qui donne une idée du niveau d'accessibilité du site. C'est ce qu'on a fait avec la société Kona, et en confrontant cet audit rapide avec mes retours utilisateurs, puisque j'utilise un lecteur d'écran, et ça nous a permis de se rendre compte qu'on était pas accessible, on ne peut pas naviguer sur le site, on ne peut pas aller au-delà de la page d'accueil avec un lecteur d'écran, mais en revanche, concernant les taux de contraste des couleurs, on était parfaitement dans les clous, on respectait les taux de contraste minimum. Donc souvent, comme on va voir un peu plus tard en explicitant le travail exploratoire mené sur notre outil de chaîne éditoriale, on fait déjà de l'accessibilité sans le savoir. Donc on a publié une déclaration d'accessibilité en 2021. Nous étions non conformes parce que quand on n'a pas pratiqué d'audit de conformité, on doit signaler en pied de page accessibilité non conforme. On a utilisé le modèle de déclaration formatée et formalisée disponible sur le site de la division interministérielle du numérique, qui rédige le RG2A. Cette déclaration d'accessibilité se décompose en trois grandes parties. Vous indiquez votre politique en faveur de l'accessibilité numérique dans un paragraphe introductif. Si vous avez procédé à un audit de conformité, vous indiquez les outils utilisés et les pages de l'échantillon prises en compte. Et ce qui relève des exemptions, de la charge disproportionnée et ce que vous n'avez pas pu faire. Et vous publiez un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique qui est votre feuille de route concernant votre stratégie accessibilité numérique qui est valable 3 ans comme la déclaration d'accessibilité et qui se décline en plan d'action annuel, sachant que le plan d'action de l'année en cours doit être publié. Et en troisième et dernière partie, vous indiquez un contact pour permettre à vos utilisateurs de faire des remontées en cas d'inaccessibilité. Donc les contacts sont aux différentes formes, hein, par voie électronique, un formulaire accessible si possible, un numéro de téléphone, une adresse mail, et vous indiquez également si vous n'avez pas répondu dans des délais raisonnables à la demande ou contacter le défenseur des droits. Donc cette déclaration d'accessibilité a été publiée en 2021. Nous n'avions pas pratiqué d'audit de conformité parce qu'il y avait un projet de refonte du site et nous avons donc attendu d'entamer le chantier cette année. Et à ce moment-là, nous allons intégrer dans le cahier des charges du prestataire qui réalisera l'audit la prise en compte de l'accessibilité numérique. Ça veut donc dire lui indiquer le référentiel technique sur lequel il doit s'appuyer et décrire les fonctionnalités d'accessibilité qu'on désire dans son site. Ça concerne l'accessibilité du site, mais également des contenus. Donc ça, c'est en chantier. On espère pouvoir publier le site en 2025. Et concernant le SPAN, ENS Édition s'inscrit dans l'engagement de l'ENS de Lyon en faveur de l'accessibilité numérique. Et le choix a été fait de renvoyer vers le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique de l'ENS qui, dans ses plans d'action, inclut les plans d'action spécifiques au périmètre de ses composantes. ENS Édition, la bibliothèque interuniversitaire, par exemple, également.
Bientôt conclure.
Concernant les processus de travail, on a également, en plus de la grille d'expertise et du guide rédactionnel des textes alternatifs, inclus la prise en compte dans le guide concernant l'écriture inclusive. On a donc préconisé, nous n'obligeons pas, d'éviter toutes les formes graphiques qui pose un problème de compréhension quand on utilise un lecteur d'écran, même si on peut régler la verbosité du lecteur d'écran en lui demandant de ne pas lire les signes de ponctuation, le point bas, le tiret, la parenthèse. Néanmoins, le lecteur d'écran va marquer un temps d'arrêt et la lecture sera très hachée. Sur un texte court, ça peut passer, mais sur un ouvrage universitaire ou même un article de revue, ça peut devenir très vite incompréhensible. On prend également en compte les difficultés que cela peut poser pour les lectures 10, bien que là, on n'ait pas d'études chiffrées pour appuyer notre propos, mais des retours de lecteurs nous indiquent que ça peut poser des problèmes de lecture.
Il va falloir conclure.
Pardon.
Il va falloir conclure.
Oui. On a donc mené un travail exploratoire sur la chaîne Métop. Donc là, on fait déjà de l'accessibilité sans s'en rendre compte, puisque nous sommes en édition structurée. Les textes sont structurés en niveau de titre, donc ça permet de naviguer dans la table des matières d'un article, d'un ouvrage. Les éléments sémantiques sont bien identifiés, donc restitués par le lecteur d'écran. Néanmoins, il nous manquait la possibilité d'insérer des textes alternatifs. Donc, dans la dernière version de Métop 3, on peut insérer un texte alternatif court. Mais pour nous, à ENS Édition, compte tenu de nos contenus scientifiques, le contexte, le flux de texte principal, le titre de l'illustration a déjà tout dit de ce que pourrait dire un texte court qui se limite à 145 caractères si on se réfère au guide rédigé par le SNE ou au webinaire du consortium des I qui se sont tenus pendant les deux années du Covid, où là les acteurs de l'édition adaptée du monde anglo-saxon parlent également de 145 caractères. Certains utilisateurs qui utilisent un lecteur d'écran de JAWS sur Windows se retrouvent effectivement au bout d'une centaine de caractères coupés. Le lecteur ne va pas au-delà. Sous VoiceOver, sous Mac, il tourne en roue libre. Ça fonctionne indéfiniment. Metop a également, je me dépêche, je suis en retard, excusez-moi, permis d'intégrer les métadonnées d'accessibilité technique, notamment pour l'export EPUB 3, qui vont décrire les caractéristiques d'accessibilité inclus dans l'EPUB, la structuration au niveau de titre, la présence de textes alternatifs ou pas, etc. Nous sommes en demande envers Metop de développer la prise en compte des descriptions détaillées, structurées en plusieurs paragraphes, en liste à puces. Également la production de métadonnées de diffusion basée sur Onyx 3 196, puisqu'on peut exporter un fichier Onyx à partir de Metop, ce qui permettra de l'utiliser pour la diffusion.
Il faudrait conclure, sinon on ne pourra pas faire de questions du tout. Ça
Pardon.
Serait
dommage. J'ai presque fini. La prise en compte du multilinguisme, pardon, pour les citations, ça c'est quelque chose auquel ils vont réfléchir et peut-être s'appuyer sur l'IA. Et puis on a travaillé aussi avec les équipes d'Open Edition en 2018. On s'était déplacé avec mon collègue Lilian Etienne, qui a été un des premiers en 2017 à s'intéresser à l'accessibilité numérique. On est intervenu pour leur présenter l'accessibilité numérique. Et désormais, ils ont une référente accessibilité numérique, Amandine Texier, et des actions de formation ont eu lieu, et c'est un sujet qui est pris en compte, mais néanmoins on attend de pouvoir disposer de plateformes numériques accessibles pour accéder au contenu accessible. Et le quatrième volet de l'action au sein du service, c'est la mise en place d'une veille juridique et technologique qui est partagée et enrichie au sein de différents réseaux. Le GT Accessibilité Médici du réseau Médici, la participation au GT Accessibilité de la future Alliance et la participation au réseau qui est en cours de construction des référents accessibilité numérique universitaire. Depuis la crise Covid, il y a eu une prise de conscience dans l'enseignement supérieur de l'importance de la prise en compte de l'accessibilité numérique et dans différents corps de métier, à différents niveaux hiérarchiques dans les universités et les grandes écoles. Des référents accessibilité numérique sont en poste et sont en train de se structurer. Par exemple, à Lille, vous avez une référente à l'Université de Lille, vous avez une référente accessibilité numérique au service web. Et je crois que nos collègues des éditions sont en contact avec eux, notamment pour évaluer l'accessibilité de la plateforme OMP. Donc, pour conclure, notre contexte est très complexe. L'éditeur ne peut pas, à lui seul, porter la responsabilité et les actions de sensibilisation et de développement de la prise en compte de l'accessibilité numérique. On est dépendant de tous les acteurs de l'écosystème. Donc, c'est l'affaire de tous. Et je vous prie de m'excuser pour mon retard. Merci.